Il secoua la tête. Il ne peut me sauver, j'ai pêché toute ma vie. Je pensais alors à la pauvre mère, dans le nord, et je me dis qu'elle serait heureuse d'apprendre que son fils était mort en paix, je résolus donc de rester auprès de lui. Je priai donc deux ou trois fois, et lui répétai toutes les promesses de Dieu, qui vinrent à ma mémoire, car il était évident qu'il s'en allait. Je vais vous lire, lui dis-je, une conversation que tint Jésus, avec un homme qui désirait le salut de son âme. Et je commençai le chapitre 3 de l'Évangile de Saint Jean. Ses yeux étaient rivés sur moi, et quand je vins aux versets 14 et 15, il m'arrêta à ces paroles. Jean 3, 14-15 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que ces paroles sont là? Me demanda-t-il. Oui? Lisez-les encore. J'obéis. Il s'accouda sur sa couchette, et joignant les mains, il me dit « Cela est bon, ne voulez-vous pas le relire ?» Je relus ce passage une troisième fois, puis j'allai jusqu'au bout du chapitre. Quand j'eus fini, je vis ses yeux fermés, ses mains toujours jointes, un sourire sur son visage. Oh ! Quelle lumière l'illuminait ! Quel changement ! Je vis ses lèvres s'agiter, et... penché sur lui, je l'entendis murmurer, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, « De même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il ouvrit les yeux et me dit, « C'est assez, ne lisez plus. » Il vécut quelques heures encore, son cœur appuyé sur ses douces paroles, puis, dans l'un des chars de Jésus-Christ, il partit pour aller prendre sa place au royaume des cieux. Peut-être parlais-je ici à un jeune homme, à une jeune fille qui, tout récemment, a vu mourir sa mère, celle-ci en mourant lui a dit « Mon enfant, viens me rejoindre là-haut. Et vous l'avez promis. Mais vous ne la reverrez jamais si vous ne naissez de nouveau. Parents, si vous voulez revoir ces chers petits qui vous ont devancé, il vous faut naître de l'esprit. » Peut-être y a-t-il parmi ceux qui me lisent un père, une mère dont le fils unique est parti. Si vous pouviez entendre la voix de ce bien-aimé, elle vous dirait « Venez, venez ici ». Nos amis, nos parents, nos enfants, tous les bienheureux nous crient « Venez, venez ». Pour les revoir et les rejoindre, il nous faut être nés de nouveau. Nous avons tous, là-haut, un frère aîné. Il y a près de 1900 ans qu'il est remonté, et du rivage céleste, il nous appelle aujourd'hui. Tournons le dos au monde. Fermons-lui nos oreilles. Regardons à Jésus sur la croix pour être sauvés. Alors nous aurons l'assurance de voir un jour notre roi dans sa gloire et de la partager éternellement avec lui. Chapitre 5. Conseil pratique. Ésaïe 13. Huit ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent, ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns les autres avec stupeur, leurs visages sont enflammés. Matthieu 12, 20 il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il est dangereux, pour ceux qui cherchent le salut, de s'appuyer sur l'expérience des autres. Beaucoup ne croient être sauvés que si leur conversion s'opère comme s'est opérée celle de leurs parents. Un de mes amis, qui fut converti dans un champ, voudrait envoyer la ville entière dans ce champ-là. La seule règle qui existe pour tous, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui doit être précieuse à ceux qui désirent être sauvés. Si quelqu'un dit, par exemple, je n'ai aucune force, qu'il lise Romains 5, 6, car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. C'est justement parce que nous n'avons aucune force qu'il nous faut Christ. Il est venu donner la force aux faibles. Un autre dira « Je ne puis voir où est la vérité ». Christ dit Jean 8, 12 Jésus leur parlait de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Il est venu, non seulement pour donner la lumière, Ésaïe 42, c'est pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Un autre encore prétendra qu'on ne peut être converti sur le champ. À celui-là, je montrerai ce passage, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Combien de temps faut-il pour accepter un don? Il y a un instant où vous ne l'avez pas et un instant où vous l'avez, il passe de la main d'autrui dans la vôtre en un moment. La vie éternelle commence instantanément. Elle peut cependant, comme le grain de semence, ne croître que lentement. Certaines personnes ont été converties d'une manière si graduelle que, comme pour le lever du jour, on ne peut dire quand leur conversion a commencé. D'autres, au contraire, éprouvent comme un coup de tonnerre et la vérité resplendit soudainement à leurs yeux. Je ne ferai pas un pas pour prouver le jour et l'heure de ma conversion, mais ce qu'il m'importe de savoir, c'est que je suis vraiment converti. Il est possible qu'un enfant ait été si bien élevé dans la crainte du Seigneur qu'on ne puisse déterminer l'instant de sa nouvelle naissance, mais il y a cependant un changement décisif, à un moment déterminé, qui l'a fait participant de la nature divine. On y les conversions instantanées. Mais je défie qui que ce soit de m'en montrer d'autres dans tout le Nouveau Testament. Comme Jésus passait, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts, et il lui dit Matthieu 9, 9 de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. Il ne peut rien y avoir de plus soudain que cela. Zachée le péager cherchait à voir qui était Jésus, et parce qu'il était de petite taille, il monta sur un arbre. Quand Jésus vint à cet endroit, il leva les yeux, l'aperçut et lui dit Luc 19, 5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sa conversion eut lieu entre la branche et le sol. Il reçut Jésus avec joie et dit Luc 19, 8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien peu de gens pourraient, de nos jours, donner de pareilles preuves de leur conversion. La maison entière de Corneille fut convertie soudainement, car tandis que Pierre leur prêchait Christ, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils furent baptisés. Acte 10. Au jour de la Pentecôte, 3000 personnes reçurent la parole avec joie. Non seulement elles furent converties, mais même baptisées le même jour. Acte 2. L'histoire de l'eunuque de la reine d'Éthiopie est un exemple de conversion instantanée. Acte 8. 26-38. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance, et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ces exemples abondent dans l'Écriture. Supposez un homme qui dérobe habituellement l'argent de son patron. Il a volé 2000 francs l'année dernière, lui conseillerons-nous de n'en prendre que 1500 cette année et 1000 francs l'année suivante, jusqu'à ce qu'au bout de quelques années il ne vole plus que 200 ou 300 francs? Ce conseil sera basé sur le même principe que la théorie de la conversion graduelle. La Bible dit, au contraire, Éphésiens 4, 20 « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » C'est un complet demi-tour. Un blasphémateur ne sera pas converti pour jurer chaque jour un peu moins, car le Sauveur a dit Matthieu 5, 34 « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, qu'un ivrogne, qui a l'habitude de boire et de battre sa femme deux fois par mois, ne le fasse plus qu'une seule fois, il ne sera pas converti pour cela. » Pouvez-vous vous représenter Anania allant au-devant de Paul, qui ne respirait que haine et carnage contre les disciples de Christ, pour lui conseiller de se modérer, de n'en pas tuer autant à la fois, de faire mourir par degrés la haine dans son cœur? Ce serait aussi raisonnable que de prétendre que l'on peut croire en Jésus et se convertir que par degrés et insensiblement. Une autre classe est composée de personnes qui disent craindre de ne pouvoir persévérer. C'est une catégorie nombreuse et intéressante. J'aime avoir des gens qui se défient d'eux-mêmes. Il n'y a qu'une réponse à leur faire regarder Dieu, ce n'est pas vous qui le gardez, c'est lui qui vous garde. Au lieu que nous ayons à saisir Christ, c'est lui qui, en réponse à nos prières, doit nous saisir. Lisez, vous qui avez peur de broncher. Psaume 121, 2 Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quelqu'un a appelé ce psaume le cantique des voyageurs. C'est un admirable cantique, en effet, pour nous qui sommes pèlerins dans ce monde, c'est un psaume que nous devrions tous savoir par cœur. Dieu peut toujours faire ce qu'il a déjà fait. Il a gardé Joseph en Égypte, Moïse devant Pharaon, Daniel à Babylone. Il a rendu Élie capable de tenir tête à Achab. Et les hommes que je viens de nommer nous étaient semblables en toutes choses. Leur grandeur venait de Dieu. Regardez à Dieu, voilà le salut. La vraie foi, c'est la faiblesse humaine s'appuyant sur la force divine. Que ceux qui craignent de ne pas persévérer lisent. Jude 1, 24 heures à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Lisez encore. Esaïe 41, 10 Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Refuser de se donner à lui maintenant de peur de retomber plus tard serait aussi insensé que pour un prisonnier refuser sa grâce de peur de revenir plus tard en prison ou pour un noyé refuser des secours de peur d'être exposé de nouveau à tomber dans l'eau. Il y a deux espèces de sceptiques, ceux qui ont de vrais doutes et ceux qui aiment la discussion pour elle-même. Ces derniers ont longtemps été mon écharde, mais c'est une épine que je ne redoute plus aujourd'hui. C'était ces gens-là qui, autour du Christ, essayaient sans cesse de l'embarrasser et de le surprendre. Ils viennent à nous pour montrer leur esprit, non pour se convertir. Je rappelle à leur propos ces paroles de Paul à Timothée. 2 Timothée 2, 23 repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Question folle. Bien des chrétiens nouvellement convertis font une grande folie en se croyant obligés de défendre la Bible envers et contre tous. La vérité, c'est qu'il y a, dans la Bible, bien des choses que je ne puis ni comprendre ni expliquer, et quand on me dit que faites-vous de ces choses-là, je réponds rien. Comment les expliquez-vous? Je ne les explique pas. Qu'en faites-vous alors? Je les crois. Mais moi, je ne crois pas ce que je ne puis comprendre. Eh bien, moi, je crois même ce que je ne comprends pas si je le trouve dans la Bible. Il y a bien des points qui étaient pour moi mystérieux et difficiles il y a 5 ans et qui me paraissent lumineux et évidents aujourd'hui et j'espère que, pendant l'éternité, je découvrirai toujours quelques vérités nouvelles sur Dieu et sur sa grâce. Je me fais un devoir de ne jamais discuter les passages controversés de l'Écriture sainte. J'attendais avoir plus de lumière avant d'en parler. Je ne suis pas obligé d'expliquer ce que je ne comprends pas. Deutéronome 29, 29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce sont ces choses que je prends pour m'en nourrir et renouveler mes forces spirituelles. Mais voici un douteur sincère. Celui-ci doit être traité aussi tendrement que l'était un enfant malade par sa mère. C'est par le manque de sympathie des chrétiens que beaucoup de sceptiques s'endurcissent. J'étais, il n'y a pas longtemps, dans une réunion destinée aux personnes inquiètes sur l'état de leur âme. Il y avait là une dame incrédule que je confiais à une chrétienne pour qu'elle l'éclairât et pria pour elle. Un instant après, je vis la première se dirigeant vers la porte. Je demandai pourquoi la laissez-vous partir ?
Oh, c'est une incrédule,
me répondit-on. Je courus à la porte et l'arrêtai, et je la présentai à un autre serviteur du Christ, qui passa une heure à causer et à prier avec elle. Il alla voir la dame et son mari, et au bout d'une semaine, cette personne intelligente et sincère avait rejeté tous ses doutes et était devenue une chrétienne active. Il y fallut le temps, le tact et la prière, mais il en valait la peine. Voici quelques passages qui s'appliquent aux âmes droites que le doute retient. Jean 7, 17 « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef ?» Celui qui ne veut pas faire la volonté de Dieu ne peut non plus connaître sa doctrine. Il n'y a pas d'incrédule qui ne sache que Dieu veut que l'homme abandonne son péché tout d'abord et la lumière brillera sur lui. Mais qu'il ne s'attende pas à recevoir toutes les lumières à la fois, elles viendront l'une après l'autre, jour après jour. Ce n'est pas à ses ennemis que Dieu révèle ses secrets, et si un homme persiste à vivre dans le péché, il ne saurait comprendre la vérité divine. Psaume 25, 14 « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Nous lisons encore Jean 15, 15 « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » L'ami de Christ connaît ses secrets. Genèse 18, 17 « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ceux qui ressemblent le plus à Dieu sont naturellement les plus capables de le comprendre. Le péché est le grand obstacle à la lumière. Ôtez le péché, et quel flot de clarté pénètre aussitôt dans l'esprit et dans le cœur. Je me souviens d'un soir où la Bible était pour moi le livre le plus sec et le plus obscur de l'univers. Le jour suivant, c'était le contraire. J'en avais reçu la clé. J'étais né de l'esprit. Mais avant de comprendre quoi que ce fût de la révélation divine, il m'avait fallu abandonner le péché. C'est quand nous abdiquons aux pieds de Dieu qu'il se montre à nous. Le malheur des gens qui doutent, c'est qu'ils sont orgueilleux. Ils en savent plus que le Très-Haut. Ils ne s'approchent pas avec un esprit docile. Quiconque vient à Dieu pour se faire instruire par lui recevra ce qu'il demande. Jacques 1, 5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Chapitre 6 La repentance et ses fruits. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible, mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Les définitions qu'on en donne généralement sont bien étranges et bien erronées. Personne n'est prêt à recevoir et à croire l'Évangile, à moins d'être prêt aussi à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Avant de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul discours, Matthieu 3, 2, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais s'il avait continué à répéter cette parole, sans jamais montrer au peuple l'agneau de Dieu, son œuvre eût été très imparfaite. Quand Jésus parut, il s'empara de la même déclaration. Matthieu 4, 17 « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et quand il envoya ses disciples pour prêcher, ce fut avec le même message. Marc 6, 12 ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Après qu'il eût été glorifié, quand le Saint-Esprit fut envoyé du ciel, nous retrouvons Pierre, au jour de la Pentecôte, faisant entendre le même cri « Repentez-vous ». Et ce fut cette prédication, la repentance et la foi en l'Évangile, qui produisit de si merveilleux résultats. Erreur 44N.001.033.047 Avant que je dise ce qu'est la repentance, j'expliquerai brièvement ce qu'elle n'est pas. La repentance n'est pas la crainte. Bien des gens confondent ces deux choses. Ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés, terrifiés, ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux. Mais il y a des multitudes de gens alarmés qui ne se repentent pas. Que de matelots, dans la tempête, crient miséricorde à Dieu pour recommencer, une fois la peur passée, à jurer et à se mal conduire. Ce n'était pas la repentance, mais la peur qui les faisait crier. La repentance n'est pas non plus une impression. Bien des gens s'attendent à éprouver une émotion extraordinaire, ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent le faire avant de l'avoir ressenti. À Baltimore, je prêchais chaque dimanche à 900 criminels dans la maison de force. Il n'y avait pas un seul homme, dans cet auditoire, qui ne se sentit misérable. Pendant la première semaine de leur séjour dans la prison, ils avaient tous passé la moitié du temps à pleurer. Pourtant, si on leur eût donné la liberté, la plupart seraient retournés à leurs mauvaises actions. En fond, ils se sentaient malheureux parce qu'ils avaient été pris, voilà tout. La repentance n'est pas davantage le jeûne et la macération. Un homme peut jeûner pendant des mois et des années et, loin d'abandonner son péché, faire de ses pénitences une raison pour persévérer dans le mal. La repentance n'est pas le remords. Judas eut des remords, il en eut de si terribles qu'ils le poussèrent au suicide, cependant il ne s'était pas repenti. Je crois que, s'il fût revenu vers son maître, s'il se fût jeté à ses pieds et lui eût demandé grâce, il eût été pardonné. Au lieu de cela, il alla vers les prêtres, puis il se pendit. Toutes les pénitences du monde n'impliquent pas la vraie repentance. Souvenez-vous bien que vous ne pouvez payer les péchés de votre âme avec les douleurs de votre chair. Chassez cette dangereuse et coupable illusion. La repentance n'est pas la conviction du péché. Cela peut paraître étrange, mais ce n'est que trop vrai. J'ai vu des hommes si profondément convaincus de leur péché qu'ils n'en pouvaient dormir, ni manger, ni boire. Ils restaient des mois entiers dans cet état, mais ne se convertissaient pas. Prier n'est pas se repentir. Cela aussi peut paraître étrange, et pourtant bien des gens, désireux d'être sauvés, se confient vainement dans leur prière et dans la lecture de la Bible, s'imaginant que cela tient lieu de repentance. On peut crier à Dieu et ne s'être point converti. Renoncer à un péché particulier, ce n'est pas non plus un indice suffisant de repentance. Bien des gens commettent cette erreur. Un ivrogne cessera de boire et s'imaginera être sauvé, mais il se trompe. Renoncer à un seul péché, c'est couper une seule branche de l'arbre, quand l'arbre tout entier doit être arraché. Supposez que je sois à bord d'un navire et que j'y découvre soudain 3 ou 4 voies d'eau.